Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Clapas 93.5 et sur le net www.radioclapas.fr. Allegro Vivace, c'est l'émission de musique classique, Max à l'antenne. Je rappelle qu'Allegro Vivace est diffusé le dimanche à midi et le lundi à 20h. Aujourd'hui, nous continuons le cycle consacré aux symphonies de Gustav Mahler avec la 10e symphonie, la symphonie inachevée. Lorsque Mahler meurt à Vienne à l'âge de 51 ans, en 1911, le bruit se répand aussitôt qu'il a laissé plusieurs ouvrages posthumes. Deux d'entre eux, la 9e symphonie et le Chant de la Terre, vont être exécutés dans les mois qui viennent. Mais le mystère planera pendant plusieurs années sur la 10e symphonie, dont on sait seulement qu'elle est inachevée, bien que Mahler y ait travaillé pendant tout l'été de 1910. Quelques-uns des intimes de Gustav Mahler, en particulier Bruno Walter, son élève et chef d'orchestre, affirment qu'il a exigé avant de mourir la destruction des esquisses. C'est très probable. En effet, car toute sa vie durant, Mahler n'a jamais accepté de parler d'aucune de ses œuvres, ni d'en jouer le moindre passage avant qu'elle ne soit entièrement terminée. Pourtant, on doit une véritable reconnaissance à Alma Mahler, Bruno Walter le reconnaîtra lui-même plus tard, de n'avoir pas respecté le désir de son époux. Car lorsqu'en 1924, elle autorise l'éditeur viennois Paul Zollnay à publier le fac-similé du manuscrit de la 10e, le monde musical découvre avec surprise que l'ultime symphonie de Mahler a été entièrement esquissée. Par la même occasion, on prend conscience de la profonde crise psychologique que le compositeur a traversée quelques mois avant sa mort, cette crise de l'été 1910, marquée d'épisodes déchirants, la découverte par Mahler d'une liaison avec Walter Gropius, les reproches amers de la jeune femme, le remords qui saisit Mahler d'avoir enchaîné à lui une femme qui était sa cadette de près de 20 ans, la folle passion qui s'empare de lui lorsqu'Alma décide de rester à ses côtés, la visite à Sigmund Freud, visite incroyable. Car tout cela, le manuscrit de la 10e symphonie emporte la trace douloureuse à travers les exclamations inscrites par le compositeur en plusieurs endroits de la partition, notamment à la fin du 3e mouvement, où il écrit « Pitié, oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Sur la plage de gare du Scherzo, Mahler écrit « Folie, saisis le maudit que je suis, détruis-moi avant que j'oublie que j'existe, que je cesse d'être. » Et dans le final, il écrit « Pour toi vivre, pour toi mourir, Alchmi. » Alchmi, c'est le diminutif de Alma. Grâce au fac-similé, on découvre aussi que le plan général de l'ouvrage, tel qu'il semble avoir été définitivement fixé, s'apparente à celui de la 7e symphonie et comprend 5 mouvements. Deux mouvements lents encadrent deux scherzi qui encadrent eux-mêmes un allegretto moderato bizarrement intitulé Purgatorio. Cette instrumentation y a été complétée par le compositeur Ernest Krenek qui vient d'épouser Anna, la fille de Mahler. Les premiers et troisièmes mouvements de la symphonie sont créés à l'Opéra de Vienne en octobre 1924 par l'Orchestre Philharmonique sous la direction de Frank Schalk. La partition de l'Adagio, le seul mouvement de la symphonie dont l'orchestration a été complètement achevée par Mahler, ne sera cependant publié qu'en 1951, avec malheureusement des erreurs qu'Alban Berg, élève de Mahler et compositeur, avait pourtant tenté de prévenir en corrigeant la transcription d'Ernest Krenek. Ces erreurs disparaîtront dans la nouvelle édition publiée en 1964 par la Mahler Gesellschaft. L'Adagio. À première vue, le morceau initial de la 10e est un vaste mouvement lent en 3 volets de type brunérien. Les 3 éléments thématiques principaux, les symétries que l'on relève dans la périodicité des phrases, la simplicité relative des maîtres, tout cela appartient encore à l'univers du XIXe siècle. Mais un examen plus approfondi permet de mieux saisir toute la hardiesse de la technique compositionnelle. En effet, Mahler développe ses motifs de manière plus systématique que jamais par un procédé que le musicologue allemand Till Roland qualifie de variation morphologique par opposition à la variation classique qui, elle, préserve la morphologie des thèmes et qui inclut, cette nouvelle variation, la fragmentation la plus totale jusqu'au renversement. Même les contrechamps se renouvellent sans cesse, et ce caractère mouvant du tissu musical contribue à être injecté au climat d'irréalité fantastique que font naître les alliages de timbres et l'utilisation des instruments dans leurs registres extrêmes. Mais comme il a donné à ces thèmes des cellules communes, le compositeur va en outre, après la catastrophe incarnée par le grand accord dissonant qui est le seul outil fortissimo du mouvement, mêler tous les motifs, les brasser dans une incertitude tonale presque absolue avant de les dissoudre dans la coda. Par cette transformation perpétuelle et radicale du matériau qui s'inscrit pleinement dans le principe de Nichtum Arbeit, non-réversibilité du temps, cher à Théodore Adorno, Mahler s'affranchit des contraintes les plus sévères que le légué et la tradition. L'obéissance à un plan préconçu, le sens de la direction et de la finalité, la résolution des tensions. En fait, il réalise pleinement cette idée du roman musical qu'il a hanté tout au long de sa carrière et plonge en même temps dans l'avenir. Une époque nouvelle s'ouvre réellement avec la dixième et l'on se demande jusqu'où l'extrême prophétique de Mahler l'aurait conduit s'il avait survécu à la triple crise psychologique dont elle est le reflet et à la maladie implacable qui allait l'emporter quelques mois plus tard. Nous allons écouter un extrait du premier mouvement, donc ce fantastique adagio, entièrement terminé par Mahler, et c'est Evgeny Svetlanov qui dirige l'orchestre de la Fédération de Russie. Nous venons d'écouter un extrait du premier mouvement, l'Adagio, Zvedanov dirigeait l'orchestre de la Fédération de Russie. Nous allons écouter aussi maintenant le Purgatorio, qui était quasiment terminé par Mahler et que Krenek a fini d'orchestrer, mais il y avait peu de travail à faire, c'était presque terminé. Et c'est Ricardo Chailly qui dirige l'orchestre symphonique allemand. Vous êtes sur Radio Clapas, 93.5, et nous venons d'entendre le troisième mouvement de la 10e symphonie de Mahler, le Purgatorio, et c'est Ricardo Chailly qui dirigeait l'orchestre symphonique allemand. La première interprétation de la version complétée par Derek Cook a eu lieu en 1960 à l'occasion d'un concert radiodiffusé par la BBC. Il existe un enregistrement d'ailleurs de ce concert qui est disponible dans la collection Testament. Dans sa version complétée, la 10e symphonie comporte donc 5 mouvements. L'adagio, entièrement terminé par Mahler, le scherzo, orchestré par Derek Cook, le purgatorio, quasiment terminé par Mahler, un nouveau scherzo, terminé par Derek Cook, et le final, terminé par Derek Cook. Nous allons écouter la fin du second mouvement, la fin de ce scherzo, et Nézé Séguin dirige l'orchestre philharmonique de Rotterdam. Entendre la fin du scherzo du second mouvement de la 10e symphonie de Mahler, Nézé Séguin dirigeait l'orchestre philharmonique de Rotterdam. Deray Cooke a commencé la reconstitution de la 10e symphonie en 1959 en relation avec le centenaire Mahler prévu le 19 décembre 1960. Bertolt Goldschmidt, compositeur dont nous avons parlé à l'époque où nous avons fait l'émission sur la Passacaille, compositeur donc et chef d'orchestre qui avait des Cooke, conduit une performance partielle avec l'orchestre Philharmonia à Londres. Ce concert était destiné à la radio, mais les objections de la veuve de Mahler, Alma, désormais Madame Werfel, sont radicales. Elle renvoie Cooke à son travail, et ce n'est qu'en août 1964 que Bertolt Goldschmidt et le Symphonique de Londres donnent la première complète de la 10e achevée par Deray Cooke. Nous allons écouter le début du scherzo du 4e mouvement, et c'est Kurt Sanderling, qui dirige l'orchestre symphonique de Berlin. Thank you. Nous venons d'entendre le début du scherzo, du quatrième mouvement de la symphonie numéro 10 de Mahler, Kurt Sanderling, dirigé l'orchestre symphonique de Berlin. Le final commence sans interruption avec le même son du tambour sourd et dans l'introduction, un déroulement provisoire des motifs est ponctué de 5 répétitions supplémentaires du battement du tambour. L'échelle montante de la basse et celle plus lente descendent dans toutes les deux vers le purgatorio. Peu à peu, la musique prend de la vitesse. Dans le même temps, commence un long voyage en ré mineur, là où le quatrième mouvement s'est terminé. Un solo de flûte sinueuse, une variante de la valse de le scherzo précédent, conduit une musique nouvellement ravie et toujours soutenue par les cordes. Le tambour de la mort s'invite dans cette EP pour introduire la musique rapide qui forme la partie centrale du final, à nouveau basée sur les thèmes du purgatorio. Quelle richesse étonnante ce bref mouvement presque intemporel donne. Encore une fois, comme dans le premier mouvement, un point de rupture est atteint dans l'eau aiguisant la trompette et la couverture brutalement dissonante de l'orchestre. Les cuivres proclament la mélodie d'ouverture de l'alto, mais à partir de là, Mahler se lance dans une musique ardente, mais singulièrement pacifiée. Cette chanson d'amour est dédiée à Alma, quand la musique s'évanouit au-delà de notre ouïe et que des bois interviennent dans leur doux soupir, Mahler écrit « Vivre pour vous, mourir pour vous ». Enfin, il y a une triple montée de violon et en un seul battement du pianissimo à fortissimo, et là, Mahler écrit « Alchemchim », le définitif de Alma. Allons écouter un extrait de cet adagio final qui préfigure tout ce que sera la musique du XXe siècle, notamment tout ce que pourra composer plus tard l'école de Vienne. Et c'est Sir Simon Rattle qui, à l'époque âgé de 25 ans, prend à bras le corps cette symphonie avec l'orchestre symphonique de Bournemouth. Thank you. Nous venons d'écouter un extrait du cinquième mouvement de la 10e symphonie de Mahler, et c'est Sir Simon Rattle qui, à tous ses débuts, à ce jeune chef de 25 ans, dirigeait le Bournemouth Symphony Orchestra. Après la mort de Mahler, il n'y a pas eu de tentative immédiate pour compléter la symphonie. Il a fallu attendre les années 60 pour que Derry Cook s'en occupe. Il remettra l'ouvrage trois fois sur le métier, et pendant trois fois, il perfectionnera, se rapprochera du plus possible d'esprit de Mahler pour donner une version définitive de cette symphonie en 1974. Aujourd'hui, les chefs d'orchestre qui dirigent cette symphonie en entier, et j'ai pu l'entendre prompt en 2008, se fondent sur les troisièmes travaux de Rick Cook. Mais il existe aussi d'autres compositeurs qui ont essayé de réorchestrer cette symphonie. On pense à Mazzetti, à Remo Mazzetti. On pense aussi au chef d'orchestre russe et altiste Rudolf Barschai. Donc c'est vrai qu'il existe plusieurs versions de cette 10e symphonie reconstituée. Pourtant, les différences sont minimes, et le but recherché des compositeurs a été plus de retrouver l'esprit de Mahler, l'esprit de la 9e de Mahler ou du Chant de la Terre pour terminer cette symphonie, que de faire œuvre personnelle. Et les différences entre les compositeurs sont minimes, et il faut une oreille avertie pour vraiment en concert s'apercevoir des différences. En tout cas, c'est vraiment l'œuvre majeure, le travail majeur de Derry Cook qui l'emporte, et aujourd'hui, bien sûr, c'est cette symphonie, cette version qui est jouée le plus souvent en concert. Quand Bruno Walter a dirigé les premières posthumes de Das Lied von der Erde à Munich et de la symphonie numéro 9 à Vienne, il semblait que toute la musique de Mahler avait été offerte au public. On supposait que la 10e symphonie était dans un état trop fragmentaire et que Mahler avait demandé à sa femme de détruire tous les courants d'air restants. Richard Specht, biographe de Mahler, a parlé de la gaieté et de l'exubérance de la musique, mais son limité explique clairement qu'il n'avait pas vu la partition et qu'il ne l'attendait pas ainsi. En 1912, Schoenberg écrivait: nous ne saurons pas grand-chose sur ce que la 10e de Mahler, pour laquelle, comme pour Beethoven, nous avons les croquis à propos de la 10e de Beethoven ou celle de Bruckner, il semble que la 9e soit une limite absolue. Celui qui veut aller au-delà de cette 9e doit mourir. C'est étrange donc qu'un Schoenberg puisse écrire ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Mahler, lorsqu'il travaille à cette 10e symphonie, est malade, épuisé psychologiquement, et la maladie gagne du terrain au point qu'il en mourra. Il faut savoir qu'à cette époque, les savants ont inventé la pénicilline, et que si Mahler, à quelques mois après, avait pu bénéficier d'un traitement à la pénicilline, il aurait sûrement survécu et pu terminer cette fantastique 10e prémonitoire de ce qu'est la musique du XXe siècle. Ainsi se termine ce voyage bourrifant au cœur de la dernière œuvre de Gustav Mahler, l'inachevée 10e symphonie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Radio Clapas, 93.5, pour une analyse de Das Lied von der Erde, le chant de la Terre, qui est aussi une symphonie et qui chronologiquement serait la 9e. Merci à tous pour votre fidélité. Salut Pierre-Jean. À la semaine prochaine. Au revoir.